Le 18-20, comme chaque soir, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 7 juillet avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec une très étrange photo des JO de Tokyo.
Oui, des épreuves sportives sans spectateurs, voilà ce qui s'annonce à Tokyo à 2 semaines des JO. L'épidémie repart à la hausse et l'état d'urgence est de nouveau instauré dans la capitale japonaise. Face à la propagation rapide du variant Delta, évitez l'Espagne et le Portugal pour les vacances. Recommandation du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune. Louis Mapou, élu à la tête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un indépendantiste kanak. C'est une première, nous y reviendrons. Une amende totale de 875 millions d'euros à Volkswagen et BMW par Bruxelles, accusés de pratiques anticoncurrentielles. Nous verrons pourquoi.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir nous allons au Canada, qui vient de nommer une autochtone au poste de gouverneur du Canada. C'est elle qui représente le pays auprès de la reine d'Angleterre et c'est vraiment important, une nomination qui cherche à apaiser les autochtones canadiens, alors que l'on a découvert des tombes, des restes d'enfants maltraités, molestés, violés par l'Église pendant des décennies. C'est tout un pan de son histoire que le Canada regarde et doit expurger. On y viendra. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Si tu te vaccines pas, je te quitte. Le débat sur la vaccination et son obligation, attention, tourne à la fracture dans vos familles, dans votre cercle d'amis. Venez nous le raconter. Et dans toute la société aussi qui se fracture entre vaccinés et non vaccinés, où cela nous emmène-t-il? On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les JO de Tokyo donc se dérouleront sans spectateurs.
Le coup près est tombé, oui, en tout cas pour l'écrasante majorité des épreuves sportives. Toutes celles qui ont lieu dans la capitale japonaise. C'est la ministre japonaise des Jeux qui l'annonce à 2 semaines des Jeux Olympiques suite à la remise en place de l'état d'urgence à Tokyo pour faire face à la prolifération du virus de la Covid. Principale menace, le variant Delta hautement contagieux qui se propage à une vitesse grand V. Il représente environ 30% des cas à Tokyo. L'un des plus grands événements sportifs de la planète aura donc lieu à huis clos, Karine Nishimura.
Il n'y aura pas de public lors des épreuves des Jeux Olympiques à Tokyo et dans les départements alentours. C'est la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto qui l'a annoncé en pleine nuit dans la capitale.
Compte tenu du rétablissement de l'état d'urgence, nous avons décidé de prendre des mesures plus strictes afin de réduire les flux de personnes et de prévenir l'expansion des infections. Les Jeux se tiendront à huis clos.
Le scénario tant redouté par le Premier ministre Yoshihide Suga est désormais réalité.
Plus que 2 semaines avant l'ouverture des JO, ce seront des Jeux sans précédent, sous état d'urgence. Je suis désolé pour la population de devoir rétablir un état d'urgence 3 semaines après avoir levé le précédent.
Pour autant, le Premier ministre reste convaincu de la pertinence d'organiser maintenant ces Jeux olympiques.
Réaliser des jeux sûrs et sécurisants en pleine pandémie de coronavirus, c'est précisément à cette occasion que l'humanité peut affronter les difficultés et les surmonter en unissant toutes les forces.
Le huis clos pour les JO était l'option privilégiée par les épidémiologistes avant même le début de cette 5e vague due au variant Delta. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Il faudra une 3e dose de vaccin anti-Covid pour les plus vulnérables car leurs défenses immunitaires sont plus affaiblies. Annonce du Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Blois au congrès annuel des villes de France. Les formules choc pour convaincre les jeunes réticents à aller se vacciner contre la Covid. Le vaccin est 100% efficace contre le confinement. Celle-là est signée du ministre de la Santé, Olivier Véran. Un peu plus tôt, c'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui s'est lancé. Se vacciner, c'est un petit pas pour soi, un grand pas pour l'immunité. Les deux élus ont échangé avec des jeunes au centre de vaccination La Défense Arena de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. S'ils insistent autant auprès des 20-30 ans, c'est parce que le taux d'incidence progresse fortement chez cette tranche d'âge. Opération séduction d'un côté, dissuasion de l'autre. Face à la propagation rapide du variant Delta, éviter l'Espagne et le Portugal. Préconisation ce matin du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Il n'est pas interdit de s'y rendre, mais il lance un message de prudence. Les deux pays font face à une flambée de l'épidémie, notamment en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où à partir du week-end prochain, les discothèques et les bars vont fermer pendant 15 jours pour freiner la propagation du virus. Alors, comment réagissent les Français qui comptaient se rendre en Espagne ou au Portugal? Ont-ils changé leur fusil d'épaule? Reportage à Périgueux où vivent beaucoup de Portugais et de Franco-Portugais. Jeanne Butler est allée à leur rencontre.
À l'ombre de sa serre, branchée sur une station de radio portugaise, Lorenzo a pris sa décision. Pour la première fois en 30 ans, le cultivateur de fraises n'ira pas voir sa famille cet été.
J'ai appelé ma famille ce matin, ils m'ont dit que c'est une mauvaise idée de partir là-bas. Alors ça fait peur.
Dans son village, le taux d'incidence est de 400 pour 100 000 habitants. C'est 16 fois plus que la moyenne française.
J'ai des baptêmes là-bas et tout ça, j'y suis évité, mais c'est un peu compliqué. Ça manque un peu, oui, mais bon. Il faut faire avec.
D'autres partiront, peu importe les recommandations, comme Leandro et Rémi, ouvriers dans le bâtiment.
On n'a rien à foutre de ce qu'ils disent, je vais aller au Portugal.
Ah, je pense que lui, comme tous, hein, comme tous les Portugais qui sont dans les coins, et tant qu'ils ne fermeront pas les frontières et qu'ils nous laisseront passer, ça c'est clair et net, on ira.
Même sentiment pour Thiago, depuis Noël, il n'attend que ça.
Il faut nous faire vivre aussi. C'est pas le virus le plus important. Le plus important pour moi, c'est voir ma famille. Ça fait beaucoup de temps que je ne le vois pas et j'aimerais bien y aller.
Si les conditions le permettent, le 7 août, Thiago prendra sa voiture et roulera 11 heures pour rejoindre sa famille dans le nord du Portugal.
Un reportage Jeanne de Butler de France Bleu Périgord pour France Inter. Un foyer de contamination variant Delta dans les Vosges, 9 cas positifs. Des supporters de retour de Hongrie où ils ont assisté au match France-Portugal de l'Euro de foot. C'était le 23 juin dernier. Le concert test du 29 mai à Paris avec Indochine qui s'est tenu devant une foule masquée a démontré l'absence de sur-risque d'infection au Covid. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'assistance publique hôpitaux de Paris. Une bonne nouvelle donc pour le monde de la musique dans l'optique d'une reprise pérenne des concerts debout. La circulation est limitée, sera limitée à 30 km/h dans presque tout Paris dès la fin août, annonce ce soir de la mairie de Paris.
Un indépendantiste kanak élu à la tête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Oui, il s'appelle Louis Mapou, 62 ans, ex-directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Il a obtenu la majorité des votes des 11 membres du gouvernement local. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir.
Un président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie indépendantiste, c'est une première depuis Jean-Marie Tjibaoui et l'accord de Nouméa de 1988.
Oui, et ça fait 5 mois que l'archipel était sans gouvernement, faute d'accord au sein des indépendantistes, majoritaires mais divisés en deux branches, d'où l'émotion au siège de l'exécutif à Nouméa. L'élection de Louis Mapou, célébrée par un chant de joie en langue traditionnelle dréou, entonné par ses collaborateurs.
C'est un honneur, c'est aussi une lourde responsabilité. C'est la première fois que le mouvement indépendantiste arrive et nous arrivons au moment le plus difficile de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de ces 30 dernières années.
Louis Mapou sur Nouvelle-Calédonie la première, l'ascension d'un fonctionnaire engagé, administrateur d'Eramet qui exploite les mines de nickel, sujet brûlant là-bas, plus de 30 ans de lutte indépendantiste. Par les mots et dans les urnes, il prône un choc psychologique. Invité comme tous les élus à l'Élysée et au ministère d'Outre-mer début juin, Louis Mapou avait pratiqué la chaise vide, mais il ne s'opposera pas à l'organisation de l'ultime référendum prévu par l'accord de Nouméa et planifié au 12 décembre prochain.
Est-ce qu'on va boycotter ? Non, nous sommes engagés. Ce que nous disons simplement, ce référendum à fin d'année ne nous convient pas, mais la procédure n'est qu'à son début.
Trop court, selon lui, pour faire campagne, alors que le oui à l'indépendance s'est rapproché du non lors des deux précédents référendums. Perçu plutôt comme un modéré, Louis Mapou reçoit les félicitations républicaines de Sébastien Lecornu. Le ministre des Outre-mer espère le voir le plus vite possible pour régler les sujets les plus urgents, budgétaires notamment.
Merci Yaël Gauze du service politique de France Inter. La France condamne les attaques qui se multiplient à Bagdad, en particulier contre des cibles américaines. 3 tirs de requêtes notamment contre l'ambassade américaine en Irak. Le pape François dénonce l'assassinat odieux du président haïtien Jovenel Moïse et condamne toute forme de violence dans le règlement des crises politiques. Haïti est en deuil après l'assassinat de son président avant-hier dans la nuit dans sa résidence privée. Son épouse a été grièvement blessée. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame que les auteurs de l'assassinat soient rapidement traduits en justice.
Volkswagen et BMW sélectionnés par la commission
sanctionnés
par la Commission européenne.
Oui, Fabienne, les constructeurs automobiles allemands vont devoir verser une amende totale de 875 millions d'euros. Ils sont accusés par Bruxelles de pratiques anticoncurrentielles. Ils se sont mis d'accord pour éviter de trop réduire les émissions polluantes de leur moteur diesel, alors qu'ils possédaient la technologie nécessaire pour faire mieux. Un troisième constructeur, Daimler, a échappé à la sanction en révélant justement cette entente à laquelle il était associé. Précision avec notre correspondant à Bruxelles, Jérémy Audouard.
C'est Volkswagen qui écope de l'amende la plus lourde. Le constructeur allemand et ses filiales Audi et Porsche vont devoir payer 502 millions d'euros au total. L'autre grande entreprise touchée, c'est BMW, 373 millions d'euros d'amende. Quant au constructeur Daimler, qui détient notamment Mercedes, il n'aura rien à payer. Même s'il est impliqué dans l'affaire, Bruxelles a fait preuve de clémence car c'est lui qui a révélé le scandale. Pendant au moins 5 ans, de 2009 à 2014, ces constructeurs se sont rencontrés régulièrement pour des réunions techniques. Au centre de leur entente, l'utilisation de la technologie dite SRC. C'est une technique qui permet d'éliminer les oxydes d'azote que l'on trouve dans les gaz d'échappement des voitures diesel. Mais alors qu'ils avaient les moyens techniques de fournir des produits performants, c'est-à-dire de moins en moins polluants, ils ont préféré se mettre d'accord pour assurer le minimum, un moyen d'éviter des dépenses et de la concurrence. À noter que c'est la première fois que la commission de Bruxelles sanctionne ce type de collusion technique. Bruxelles, Jérémy Audouard, France Inter.
Retour en France, les ossements découverts dans le Gard il y a 3 semaines sont bien ceux de Lucas Tronche. Les expertises génétiques le confirment. L'adolescent de 15 ans est porté disparu depuis le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze. Il venait de quitter son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine. Le garde des Sceaux se défend après les révélations hier de Mediapart et de l'Opinion. Alors qu'il était encore avocat, Éric Dupond-Moretti a omis de déclarer 300 000 euros de revenus en 2018-2019. Son entourage a fait savoir que la rectification a bien eu lieu, que la situation du ministre de la Justice est totalement réglée. Mais Éric Dupond-Moretti, en déplacement à Troyes, a tenu à se défendre lui-même devant les caméras et les micros.
Lorsque l'on est ministre, obligatoirement on fait l'objet d'un contrôle fiscal. Ni l'administration fiscale, ni la haute autorité pour la transparence de la vie publique n'ont vu cette difficulté. C'est mon actuel comptable qui s'est rendu compte d'une erreur qui avait été commise par son prédécesseur. Dès que cette erreur m'a été signalée, j'ai d'initiative informé l'administration fiscale. Les sommes que vous évoquez ne proviennent pas de mon activité d'avocat, mais de mon activité théâtrale. L'URSSAF et la TVA ont été payées sur ces sommes. L'administration fiscale a dit qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai rien d'autre à dire, sauf que je me pose quelques questions sur la façon dont certains de vos confrères ont été saisis de cette nouvelle.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le vent s'est invité tout à l'heure sur le Tour de France avec des rafales de 50 à 60 km heure. 12e étape aujourd'hui entre Saint-Paul-Château et Nîmes. Un parcours de 159 km avec une seule côte, la côte du Belvédère de Tarot. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Mariam.
Et c'est l'Allemand Nils Polit qui l'emporte.
Eh oui, victoire en solitaire de l'Allemand de 27 ans, le plus fort d'un groupe de 13 coureurs échappés depuis les tout premiers kilomètres en quittant justement la Drôme et Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. 13 coureurs qui ont su profiter, vous en avez parlé, du fort vent de dos pour faire faux bond au peloton sous l'impulsion, devinez qui, encore une fois, de Jean-Julien Alaphilippe, le champion du monde, encore une fois hyper actif, mais ça n'a pas suffi. Polit a déposé ses compagnons d'échappée à 50 km de l'arrivée. Le peloton finit, lui, à plus de 15 minutes, mais pas de changement au classement général. Journée tranquille pour le maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar, direction Carcassonne désormais.
Merci Fanny Le Chevestrier. Du mouvement dans la planète football, c'est officiel, le défenseur espagnol de 35 ans, Sergio Ramos, va évoluer sous les couleurs du PSG. Il signe pour 2 saisons. Il avait quitté le Real Madrid à contre-cœur, mais la page est bien tournée. Le transfert ne coûte rien, mais son salaire sera conséquent, autour de 12 millions d'euros, selon nos confrères de L'Équipe.
Merci beaucoup, Mariam El Kurdi. Merci à tout de suite dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un musicien afghan qui est inquiet du retour des talibans. C'est sous les radars. Ce soir, nous allons au Canada, qui doit regarder en face sa propre histoire et sa manière aussi de traiter les autochtones pendant si longtemps. On y viendra longuement. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, l'on parle de fracture entre nous. Votre mari, votre femme n'est pas vacciné. Le sujet envenime toutes vos conversations. Vous avez découvert qu'un de vos amis ne veut pas aller se faire piquer. Vous êtes tombé de votre chaise, vous avez décidé qu'on ne parlerait plus de ce sujet sous votre toit, jamais. La fracture est dans nos familles, elle est dans nos vies, elle est dans la société aussi. Attention à l'explosion s'il y a deux traitements pour deux Frances différentes, parce que, on le verra aussi, il y a beaucoup de refus qui sont différents. Venez témoigner au 01 45 24 7000. Sinon, la France est pas mal fracturée côté météo aussi.
La météo, avec Pavillon France. la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et Elodie Calac, moins d'averses, plus d'éclaircies au programme de demain.
Oui, ça ira un petit peu mieux. Alors sur le nord-ouest, tout de même pas mal de nuages et quelques averses, mais de retour de petites éclaircies l'après-midi. Sur Poitou-Charentes, le centre-Val de Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France, le nord-est jusqu'au Lyonnais, là les éclaircies s'imposeront une fois la grisaille matinale dissipée. On ne sera pas à l'abri d'une petite averse du nord de la Seine jusqu'à l'Alsace, mais rien de bien méchant. Et puis du sud-ouest au sud des Alpes, en Méditerranée, du soleil au menu, juste quelques nuages bas qui traîneront au sud de la Garonne en début de matinée. Et puis toujours ce bémol tout de même, le vent en Méditerranée qui soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure.
Quelques températures, Elodie, pour la route ?
10 à 15 degrés le matin, Fabienne, jusqu'à 22 quand même en Méditerranée. Et puis l'après-midi, il fera 18 à 24 degrés sur le nord-ouest et au nord de la Seine, 23 à 27 ailleurs et jusqu'à 32 en Méditerranée.
Elodie Calac de Météo France, merci beaucoup.